Merci beaucoup. Guillaume et Christine, vous vouliez réagir.
D'une manière globale, je pense que les gens ne se sentent pas concernés par... Soit, alors, parce que la question des représentations vaut pour les partis politiques, mais vaut pour les syndicats, si je peux m'autoriser à le dire. C'est-à-dire que nombre de personnes... c'est très, très difficile d'avoir des règles et des pratiques pour une masse de gens et qu'elles puissent être... représenter quelque chose dans le quotidien de gens qui sont dans des situations très différentes, comme vous le disiez, et en particulier dans les associations petites et moyennes, la relation employeur-employé, si elle n'est pas toujours parfaite, elle n'est quand même pas du tout du même ordre que dans une entreprise du 440 ou dans une grande distribution, etc. On n'est pas du tout dans les mêmes champs. Je pense qu'aucun d'entre nous ne compte le temps quand il y a une pause cigarette ou une pause pipi. Ça ne nous viendrait même pas à l'idée. Par exemple, c'est des choses du quotidien que les gens vivent. Et finalement, on oublie ça. Plus on monte en représentation et en taille, et plus on oublie où on ne peut pas s'occuper, où on n'a pas trouvé les moyens de s'occuper de la vie de chaque jour des gens, des petites choses qui font leur confort et leur qualité de vie au travail, qui sont... Et cette question de ne pas avoir voté, je pense parce que ça va avec ce que vous dites, ce que je disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ne se sentent pas concernés parce qu'ils pensent que leur avis ne compte pas. Et qu'il y a d'autres moyens où il n'y en a pas, où ils se refont d'autres cercles et d'autres tailles à dimension sous d'autres moyens et avec d'autres façons de s'exprimer finalement dont on ne tient pas encore compte tout à fait.
Oui, je voulais moi aussi revenir sur ce qu'a dit Thierry. Je pense que évidemment la question de l'emploi, du chômage, etc. est centrale dans nos difficultés. Et je crois qu'on a fait pas mal de bêtises quand même dans les 30 dernières années sur ce terrain. Donc ça fait 25 ans que tout le monde dit, à gauche et à droite, hein, c'est une sacrée unanimité là-dessus. On a un problème de chômage de gens peu qualifiés. C'est parce qu'on ne crée pas suffisamment d'emplois peu qualifiés. Il faut en créer davantage. Et pour ça, on va abaisser le coût du travail à proximité du SMIC. Donc on est arrivé maintenant à un niveau où il n'y a quasiment plus de cotisations sociales patronales au niveau du SMIC. Mmh. Et ça a vachement bien marché. On a créé plein d'emplois de SMICards. Tous les pays développés ont un SMIC, mais la plupart des pays qui ont un SMIC, ils ont 5% de SMICards ou quelque chose comme ça. Nous, on en a 15%. C'est le résultat notamment de cette politique. Le problème, c'est que tout à fait contraire à la politique qu'on a menée avec tout autant de continuité et de consensus gauche-droite par ailleurs sur le terrain éducatif. Donc ça fait 25 ans, 30 ans qu'on dit il faut augmenter le niveau de formation initiale des Français, etc. Donc on a été très en retard il y a 30 ans. On ne l'est plus par rapport aux pays de l'OCDE aujourd'hui. On ne l'a pas forcément fait très bien, mais on l'a fait. Le problème, c'est que c'est les jeunes vachement plus éduqués que leurs parents qui occupent ces emplois de SMICard. Parce qu'on a toujours autant de problèmes de chômage des gens peu qualifiés. Les gens peu qualifiés, c'est pas une question... Enfin, surtout quand ils sont chômeurs de longue durée, c'est pas tellement une question de prix du travail. Il faut les requalifier pour les ramener sur le marché du travail. Ça coûte cher, c'est compliqué. Mais c'est pas en abaissant le coût du travail qu'on trouve une solution à ce truc-là. Donc là, on s'est créé des problèmes sociaux et politiques assez lourds du côté des jeunes en particulier, en faisant ces deux politiques contradictoires. Mais on s'est aussi créé des problèmes industriels, de compétitivité industrielle. C'est-à-dire que abaisser le coût du travail à proximité du SMIC, comme on n'a pas abaissé la protection sociale parallèlement, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont payé à la place des SMICards. Donc aujourd'hui, la réalité du pays, c'est que c'est les cadres, c'est les cotisations sociales des cadres qui payent l'assurance maladie des SMICards. Ça n'a pas que des inconvénients. Ça veut dire que notre système social et fiscal est beaucoup plus redistributif qu'on le dit souvent, y compris dans l'alternative économique ou que peut le dire Thomas Piketty. Mais ça a aussi un inconvénient majeur, c'est que en fait, on a un coût du travail qualifié qui est devenu effectivement assez élevé et assez problématique de ce point de vue-là. On s'est aussi créé une distorsion entre les services et l'industrie. C'est-à-dire que, si vous voulez, en faisant ça, on a créé un système où c'est l'industrie qui subventionne les services parce que dans les services, il y a beaucoup de smicards et il y en a moins dans l'industrie. Donc les industriels payent aujourd'hui beaucoup plus de cotisations sociales patronales que les organisations de services. Or, c'est plutôt les gens des services qui sont moins soumis à la concurrence internationale, même si ça peut changer, et les industriels beaucoup. Donc ça, c'était le rapport gallois, mais c'est vrai que c'est un gros problème qui est venu de ça. Et l'autre chose, et c'est en relation avec ce qui vient d'être dit sur les petites et moyennes entreprises, c'est qu'on a eu aussi la même consensus droite-gauche pour dire il faut créer plus d'emplois. Les gens qui créent plus d'emplois, c'est les petites entreprises. Donc il ne faut pas emmerder les patrons des petites entreprises pour qu'ils créent plus d'emplois. Alors, est-ce que c'est les petites entreprises qui créent vraiment des emplois ? C'est compliqué parce qu'en fait, les petites entreprises sont souvent des filiales de grosses entreprises et on ne les compte pas tout à fait comme ça. Il y a eu une multiplication des groupes d'entreprises et en fait, la réalité est plus complexe que ça. Mais en tout cas, ça aboutit ça à creuser l'écart entre les droits des salariés des petites entreprises et des grandes entreprises. Et je pense que ça, c'est vraiment au cœur des difficultés sociales et politiques qu'on a aujourd'hui. Je pense que c'est très lié à la question du Front National en particulier. C'est-à-dire que les salariés des petites entreprises ont eu le sentiment, et qui était plus qu'un sentiment, qui était vraiment une réalité, que l'ensemble de la classe politique, y compris de gauche, les laissait tomber et n'avait Dieu que pour leur patron, et que ça aboutissait à une inégalité formidable entre la situation des salariés des petites entreprises et celle des salariés des grandes entreprises. Il se trouve, mais Thierry l'a reconnu assez honnêtement, que le mouvement syndical n'est pas dans une situation très différente. Il représente quand même beaucoup mieux les salariés des grandes entreprises que ceux des petites. Et je pense que c'est devenu aujourd'hui une des fractures majeures qu'il y a et que la voie, c'est vraiment de réunifier le salariat en augmentant les droits des salariés des petites entreprises. Alors peut-être qu'on est engagé dans une voie un peu différente qui est de réduire les droits des salariés des grandes entreprises, mais en tout cas, c'est un enjeu majeur que de réunifier le salariat sous cet angle-là.
Je vous en prie.
Oui, c'est vraiment un sujet très, très important. Et ce que je veux dire, c'est d'abord, c'est qu'on est en plein dans l'actualité, là, parce que bon, vous savez qu'il y a des discussions autour d'une loi d'habilitation pour des ordonnances sur le sujet. Et une des questions qui est quand même prenante dans les discussions, c'est comment on construit finalement de la présence, enfin, du dialogue social, et donc pour la CFDT, ça va avec, de la présence syndicale dans justement ces petites entreprises. Alors, ce qui est compliqué aussi, c'est que, Guillaume, tu l'as un petit peu abordé, c'est que quand on parle de TPE, on parle de choses extrêmement différentes là aussi. Entre une TPE ou une PME qui est en fait dépendante entièrement dans son fonctionnement, dans ses commandes, etc., d'une grosse entreprise et qui est en fait en bout de chaîne de valeur et qui donc est un fonctionnement sur lequel, je veux dire, la construction de l'avenir de cette entreprise est en fait, se fait ailleurs, d'une certaine façon. Et puis, une TPE qui, elle, a plusieurs clients, qui est sur un petit créneau, etc., et donc sur lesquels il y a une vraie possibilité de discuter de ce que va devenir l'avenir de l'entreprise. Vous voyez que la construction d'un dialogue entre salariés et employeurs est complètement différente. Donc, vous voyez, on retombe toujours un peu sur la même difficulté, mais sur laquelle il faut absolument qu'on arrive à prendre en compte, c'est comment on construit, encore une fois, quelque chose d'universel, parce qu'on avait un slogan à la CFDT qu'on ne renie pas, hein, c'est pas parce qu'on est travailleur d'une petite entreprise qu'on a des petits droits, quoi. Enfin, voilà, donc on a cette vision-là, et en même temps, on sait bien que si on s'amène, on fait l'expérience régulièrement, tous les ans, on a ce qu'on appelle l'opération saisonnier, où on va rencontrer... on rencontre les saisonniers, en fait, on rencontre aussi des salariés de TPE en même temps. C'est pas, à l'entrée du restaurant, c'est pas marqué s'il y a que des... Enfin bon. Et à chaque fois, on voit bien que l'attente qu'ils ont par rapport à l'organisation syndicale, c'est évidemment pas la même que celle des salariés dans une grande entreprise. Et ça peut être aussi différent suivant les secteurs d'activité. Donc il faut qu'on arrive à construire quelque chose qui permette d'apporter ce contrôle un petit peu de la réalité de l'organisation syndicale dans ces petites entreprises. Et ça, je rejoins ce que vous vous avez dit aussi. Je crois que le point quand même central, c'est la question de l'emploi de qualité. Je crois que c'est vraiment le fil qu'il faut qu'on arrive à tirer, parce que finalement, dans quel que soit quelque part le secteur d'activité, il y a de plus en plus la nécessité d'avoir des... et c'est une question de compétitivité, c'est une question aussi de répondre à des besoins sociaux. On a de plus en plus besoin d'avoir des personnes qui soient, je veux dire, en capacité de maîtriser l'acte professionnel qu'ils sont en train de faire. Et ça suppose quand même qu'on ait des personnels qui se reconnaissent dans le métier qu'ils exercent. Et ça veut dire aussi le regard qu'on porte sur eux qui doit être différent. Ça veut dire aussi la capacité aussi de ne pas les enfermer dans une situation. Tu fais le lien avec le vote Front National. Pour moi, je crois que ce qui est vraiment, qui amène au désespoir et donc éventuellement à des choix qui ne sont pas, c'est quand les personnes se sentent dépossédées de leur destin, parce qu'enfermées dans des situations sur lesquelles on leur n'offre pas de prise de sortie. Et ce n'est pas obligatoirement des petites entreprises. Hein. Rappelez-vous les épisodes, les abattoirs en Bretagne, enfin, etc. Donc avec... un mot malheureux à l'époque de celui qui n'était pas encore président de la République. Mais, il n'empêche que la réalité qui était décrite là, elle est tout à fait vraie. Vous avez vu des entreprises qui n'ont pas répondu à leur obligation sociale par rapport à leurs employés, en les laissant petit à petit perdre toute possibilité de réemploi en cas d'accident industriel. Et l'accident industriel est arrivé et ces personnes se sont retrouvées dans des situations du jour au lendemain absolument. Et ça, c'est faire que le travail soit aussi un lieu où l'on apprend en même temps.
Et de fierté.
Et de développement de l'autonomie. C'est sans doute cette question-là qui est posée sur la table. Et du coup, quand on est sur la discussion de qu'est-ce qu'on doit mettre en espace de discussion dans une entreprise, dans une branche ou au niveau national, c'est un débat qui nous a bien agité au printemps dernier, mais qui va revenir sur le devant de la table immanquablement bientôt, c'est aussi autour de cette question-là que ça se pose. Et il faudrait que la question, la réponse n'est pas simple. Hein. Je ne suis pas là pour faire de la propagande, donc je la pose dans toute sa complexité. L'équilibre est à trouver, mais à rechercher continuellement. C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre entre les garanties qu'on apporte et aussi la possibilité pour les salariés de se saisir de la réalité de leur travail. C'est quand même ça aussi qu'ils nous demandent de façon assez importante. Et si on veut que l'emploi, que le travail de façon générale soit le lieu aussi où se réduisent ces fractures, et c'est un point important, je pense que ça fait partie des enjeux de demain, quoi. Il faut que dans les entreprises aussi les fractures se réduisent. Eh bien, il faut absolument qu'on reconstitue des collectifs de travail qui aient la possibilité de peser sur leurs conditions de travail. Ça me paraît être un élément fondamental à construire.
Guillaume.
Oui, excusez-moi, je voulais encore revenir sur ces questions d'emploi et de travail parce que je crois qu'elles sont évidemment centrales. Et en particulier dans la comparaison avec l'Allemagne qui est au cœur des débats publics, etc., sur ces questions-là. Bon, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a créé autant d'emplois en France qu'en Allemagne depuis 2000. Il y a 8% d'emplois en plus en France, il y a 8% d'emplois en plus en Allemagne. La première raison pour laquelle la situation est différente sur le terrain du chômage, c'est quand même la démographie. C'est-à-dire que la population active allemande a augmenté de 5% sur la même période, donc moins vite que les créations d'emplois. Et la population active a augmenté de 10% en France, donc plus vite que les créations d'emplois. Donc c'est la première raison pour laquelle eux, ils ont moins de chômage et nous, on en a plus. C'est pas parce qu'il y a une explosion de l'emploi en Allemagne, en particulier les réformes Schröder et la période Schröder a été catastrophique sur le plan de l'emploi en Allemagne. Ce n'est qu'en 2010 que l'Allemagne a retrouvé son niveau d'emploi de 2000. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'on a un vrai problème, nous, c'est qu'on est trop productif. C'est-à-dire qu'un salarié français qui avait un emploi l'an dernier, il a produit 80 000 euros de richesse dans l'année. Un salarié allemand qui avait un emploi l'an dernier, il a produit 72 000 euros de richesse dans l'année, 10% en moins. Si on était aussi peu productif que les Allemands en France, on aurait 3 millions d'emplois en plus. C'est un truc important. Ce qu'il y a, c'est que les Allemands ont réussi à être aussi peu productifs d'une manière qui ne peut pas nous aller. C'est-à-dire que c'est essentiellement à travers le développement donc, de ce qu'on appelle des mini-jobs. Donc ouais. Quand on gagne moins de 450 euros par mois en Allemagne, on ne paye pas de cotisations sociales ou quasiment, mais derrière, on n'a pas de retraite. Hein. Donc il y a 7 millions de personnes qui bossent comme ça, et c'est l'essentiel des nouveaux emplois qui ont été créés en Allemagne depuis 2000. 7 millions de personnes qui bossent comme ça depuis 15 ans et qui n'auront pas de retraite. Hein. Mais surtout, ça se traduit en fait par le fait que c'est surtout des femmes employées à temps très partiel. Donc l'Allemagne, c'était un pays où le taux d'emploi des femmes était très longtemps très, très faible, beaucoup plus faible qu'en France, où le modèle, c'était un homme bien payé dans l'industrie ou dans l'administration et la femme à la maison pour s'occuper des gamins. Hein. C'était les trois cas, Kinder, Küche, Kirche, oui. Les enfants, la cuisine, l'église. Et donc ça a complètement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le taux d'emploi des femmes est supérieur en Allemagne qu'en France, mais ça a changé de manière extrêmement inégalitaire. Si vous voulez, un Allemand qui a un emploi, il travaille une demi-heure de moins qu'un Français qui a un emploi chaque semaine en moyenne. Mais un homme allemand qui a un emploi, il travaille une heure de plus qu'un homme français qui a un emploi. Mais une femme allemande qui a un emploi, elle travaille 3 heures de moins qu'une femme française qui a un emploi. C'est-à-dire, l'écart homme-femme de temps de travail, il est de 4 heures en France chaque semaine et il est de 9 heures en Allemagne. Et cet écart s'est plutôt accru sur la dernière période parce que les réformes Schröder ont eu comme conséquence d'amener des femmes sur le marché du travail dans des emplois à temps très partiel, sans protection sociale, très mal payés, etc. etc. Donc ça, c'est comme ça qu'ils ont résolu leur problème de chômage, mais c'est évidemment pas comme ça qu'on peut le résoudre en France, parce que ce serait socialement et politiquement tout à fait inacceptable. Alors ça devient aussi inacceptable en Allemagne. Si vous voulez, pour des femmes qui ne bossaient pas, c'était un plus de trouver un petit job. Et d'autre part, l'homme continuait à être bien payé dans l'industrie. Enfin, ce n'est pas du tout parce que les salariés de l'industrie allemande de l'automobile coûtent moins cher que les salariés de l'industrie française de l'automobile qui vendent beaucoup de voitures. Hein. L'écart est toujours de 25%. Enfin, ça coûte plus cher en Allemagne qu'en France. Mais c'est totalement inacceptable pour la France d'aller dans cette direction-là. Si vous voulez, l'Allemagne, c'est un des pays d'Europe où les écarts hommes-femmes sur le marché du travail sont les plus élevés. Nous, on n'est pas du tout, je l'ai dit, des modèles, mais on est quand même dans une autre catégorie sur ce plan-là. C'est la raison pour laquelle ça faisait du sens. C'était déjà la situation à la fin des années 90. Ça faisait du sens de réduire le temps de travail de tout le monde plutôt que d'imposer aux femmes des emplois à temps très partiel. C'est pour ça que ça faisait du sens de faire les 35 heures. Mais à mon avis, on est toujours dans la même situation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dans le sens de l'Allemagne, mais c'est aussi la même chose au Royaume-Uni, c'est aussi la même chose aux Pays-Bas, etc., etc. Tous ces pays-là ont résolu leurs problèmes de chômage en mettant leurs femmes à temps très partiel. On ne peut pas aller dans ce sens-là en France, et c'est la raison pour laquelle il faut, à mon sens, continuer à revenir sur la question du temps de travail et de la réduction du temps de travail généralisé. Alors je sais que c'est très difficile parce que les 35 heures ont laissé un passif pour des mauvaises raisons, je pense, mais c'est comme ça dans l'opinion des gens. Je plaide pas du tout là sur les semaines de 32 heures, les semaines de 4 jours, etc. Mais je pense qu'on peut y revenir sous des angles un peu assez différents, et qui peuvent intéresser d'ailleurs beaucoup de mouvements associatifs aussi, c'est sous l'angle par exemple de dire on fait 6 mois de congé sabbatique rémunéré tous les 5 ans ou 1 an de congé sabbatique rémunéré tous les 10 ans. Ça fait aussi 10% de temps de travail en moins, c'est aussi compliqué à financer, c'est aussi compliqué à organiser parce que ça veut dire que dans toutes les boîtes vous avez 10% des gens qui sont absents en permanence. Mais je pense que ça répond mieux à une demande sociale que la semaine de 4 jours ou des choses comme ça. C'est-à-dire que moi, je fais partie des gens, mais je crois que Thierry aussi, qui pense que c'est normal, comme on vit plus longtemps, de partir plus tard à la retraite, etc. Alors 65 ans, non, je crois que 62, ça suffit. Mais à condition qu'on ait le droit de faire le tour du monde sans avoir besoin d'attendre d'être en chaise roulante pour le faire, quoi.
Je voudrais juste rajouter à ça, c'est important parce que effectivement le rapport au temps et à l'espace n'est plus le même et on ne pourra pas repenser l'emploi ou les organisations si on ne tient pas en compte, y compris dans les types d'emplois, parce que vous disiez les emplois ne sont plus CDI, ne durent pas, etc. Il faut bien penser que les jeunes générations n'ont pas le même rapport au temps et à l'espace. et que une seule boîte en CDI toute leur vie, c'est pas leur rêve, hein. C'est pas leur rêve, et là du tout, et que le rapport dans l'espace, il est complètement modifié par notamment les réseaux sociaux, par leur rapport, ils sont dans le monde et chez eux en même temps, quelquefois du coup ils restent chez eux et font rien d'autre, mais ils sont dans le monde, et donc on ne pourra pas repenser l'emploi, même si on garantit un certain nombre de choses, et si on est dans un modèle français que j'espère nous garderons sur certains aspects. Il faut penser au rapport au temps et à l'espace qui se modifie, parce que c'est ça qui refonde la société. En fait, la vraie refonte de la société, c'est le rapport au temps et à l'espace des jeunes gens et leur modalité de regroupement, mais aussi leur rapport au travail dans ce contexte.
Merci beaucoup. Est-ce que sur cette première partie, sur l'état de la France, vous avez des commentaires ou des questions à poser ou à faire ? Non ? Oui, je vous en prie.
Oui, alors pardon. Donc Malo, je suis trésorier du mouvement associatif. Enfin, la plupart m'ont vu présenter les comptes tout à l'heure. Merci en tout cas pour. Merci pour vos propos, c'est fort intéressant. La question que je me posais, c'est quel rôle on peut donner. Alors vous l'avez un peu abordé, mais j'aimerais bien avoir votre avis sur la dimension psychologique, un peu de l'état du pays qui est ressenti. C'est-à-dire qu'on a quand même un peu l'impression, pour faire assez court, que le sentiment un peu morose qu'on peut avoir, ou même la défiance vis-à-vis de l'élection, c'est un peu par effet de perception. Et ce que je me dis, c'est qu'à force de dire aux gens allez voter parce que la représentation vous permet de changer votre destin, ça a pu marcher à une certaine époque parce qu'il y a eu aussi un mythe de la démocratie, mais il ne faut pas oublier que la démocratie à l'origine, c'est avant tout s'engager dans son conseil citoyen à Athènes et participer dans des tirages au sort à une échelle extrêmement locale. Donc la démocratie représentative qu'on nous vend comme la démocratie, je suis un peu provoque, hein, mais du coup elle est très particulière dans ce qu'on peut imaginer dans la démocratie, et peut-être qu'il y a un effet psychologique de nos institutions qui entretient toujours l'idée qu'en mettant un bulletin on peut peser sur le monde, alors qu'en réalité on est plein d'individualités, et de fait la démocratie représentative ne peut pas répondre à tous les problèmes. Et donc est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée que nos institutions n'ont pas fait confiance à d'autres formes de démocratie, et alors là évidemment je prêche pour ma paroisse, la démocratie notamment associative qui permet à une échelle locale de répondre à des choses, et donc du coup nous associations on n'est pas, j'ai l'impression qu'on a du mal à attirer des gens et à se vendre comme des acteurs de la démocratie parce qu'on ne nous reconnaît pas en tant que tel, parce qu'il n'y a que cet effet de la démocratie représentative qui en fait plaît de moins en moins, puisque en fait elle se surestime. Voilà.
Sachant que dans les études, notamment que tu citais 90% de gens sont pessimistes, souvent dans les études, les gens sont pessimistes pour le pays, mais ils sont plutôt optimistes et pour eux et assez heureux personnellement. Quoi. Donc il y a cette dichotomie.
Oui, je veux bien commencer à répondre, mais je pense qu'il y a une partie, un des thèmes, on va revenir dessus après, donc je ne vais pas aller trop loin sur la réponse, parce que la question de la démocratie représentative, je suis d'accord pour qu'on la pose, mais si j'ai bien compris, on en reparle après.
On va réfléchir ensuite sur la gouvernance,
à ce moment-là. Bah, juste un mot, pour moi, la question, oui, sans doute que l'aspect que tu soulèves compte, ok. Mais moi, je pense vraiment que c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui rend les gens pessimistes ou très inquiets, c'est quand même l'impression de ne pas maîtriser leur destin. Alors, je sais bien que la maîtrise complète de son destin est une utopie, hein, je veux dire, mais il y a quand même des degrés, quoi. Et quand les salariés sont dans des entreprises dans lesquelles on ne leur donne pas d'indication, vous voyez, on a mis en place la base de données unique, ou la BDES, suivant les cas, on l'appelle suivant les cas, qui est censée permettre à la représentation syndicale d'avoir une vision sur l'évolution de la société, sur l'entreprise, sur ses choix stratégiques, etc. C'est un combat permanent. On a énormément de mal à avoir des BDES qui soient de qualité, parce qu'il y a de la rétention sur l'information. Donc il y a là le côté, l'impression, c'est les choses ne sont pas décidées en fonction de ce que de mon avenir, et je ne pèse pas sur ce sur quoi je suis décidé. Alors je ne parle pas non plus de la situation dans les fonctions publiques, où l'idée d'aller discuter, de trouver un interlocuteur pour faire du dialogue social, c'est plus compliqué que la recherche de l'or au fond de l'Amazonie des fois, là-dessus il y a une vraie question du partage du pouvoir, de l'information. Alors ça se trouve à tous les échelons de la société. Bon, pour ce que je connais un peu mieux au niveau des sociétés, des entreprises, des administrations, c'est très très vrai. Et je pense que cette question-là, elle pèse psychologiquement énormément. Et donc là-dessus, voilà, moi, je pense que c'est sans doute un des axes à chercher, parce que je crois quand même, là, peut-être que Guillaume va me contredire ou pas, mais que par exemple en Allemagne, cette question-là ne se pose pas dans les mêmes termes. C'est-à-dire que, et donc du coup, ça peut quand même aussi expliquer un peu l'impression d'avoir un petit peu d'être un peu moins le sujet simplement d'éléments qui nous dépassent. Et ça, je pense que pour le moral, c'est très très mauvais.
Oui, Guillaume.
Oui, je pense. Enfin bon, on reviendra sur la démocratie représentative et les problèmes que ça pose et ce qu'on peut changer. Mais sur le reste, sur pourquoi est-ce qu'on est pessimiste pour l'avenir du pays, donc je pense qu'il y a une dimension qui est un sentiment de perte de poids, de pouvoir. On a été un grand pays avec un grand empire, etc. Et on n'est plus grand-chose. Oui, on n'est plus grand-chose. On est 60 millions d'habitants dans un monde qui en compte 7 milliards et demi. Ça fait moins d'1% de la population mondiale. C'est « peanuts ». On est encore 4% du PIB mondial, mais c'est encore beaucoup trop, parce que ça veut dire que les inégalités ne sont pas suffisamment réduites à l'échelle mondiale. J'espère qu'on arrivera à être 1% du PIB mondial d'ici pas très longtemps. Mais pour la plupart des Français, il y a derrière nous un passé glorieux qu'ils regrettent. Alors le bouquin que tu évoquais, je vise justement à faire qu'ils cessent de regretter ce truc-là, parce que les grands moments de l'histoire de France, ça s'est quand même plutôt mal passé pour les Français eux-mêmes. Bon, Versailles, c'est gentil, mais les Français, ils crevaient de faim sous Louis XIV. Napoléon Bonaparte, c'est gentil, mais enfin, il y a eu autant de morts qu'à la guerre 14-18 à cause de lui. Et ça s'est mal terminé. Et tout est à l'avenant. Donc, et je ne vous parle pas des colonies. Ça, non seulement ça a été affreux, mais en plus, ça ne servait à rien sur le plan économique. Pour la France, les pays qui se sont vraiment développés au XXe siècle, c'est les pays qui n'ont pas eu de colonies et qui n'ont pas eu tout ça à entretenir. C'est l'Allemagne, c'est les États-Unis, etc. etc. Mais c'est vrai que les Français restent nostalgiques de ça, et ils sont d'autant plus nostalgiques de ça qu'ils ont le sentiment en particulier que l'Europe ne marche pas, qu'on ne peut plus la changer, que la seule alternative qu'on ait, c'est éventuellement d'en sortir. Alors, heureusement, on a vu que la perspective du Frexit a plutôt coûté cher à Marine Le Pen, et c'est assez rassurant. Mais ils ont l'impression quand même qu'on ne peut pas changer ce machin-là. Et je crois que ce sera vraiment une des clés essentielles du quinquennat qui s'ouvre. Soit Emmanuel Macron réussit à montrer qu'on peut le changer, soit ça se terminera assez mal. Mais je crois qu'en tout cas, on peut beaucoup plus le changer que ce que les Français pensent en général aujourd'hui. C'est-à-dire que le rapport de force, en particulier vis-à-vis de l'Allemagne, n'est pas du tout celui que les Français imaginent. Bien sûr, sur le plan économique, ça va beaucoup mieux pour eux que pour nous. Leur industrie est plus solide et tout. Mais enfin, c'est pas ça qui compte forcément uniquement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des problèmes géopolitiques aux frontières de l'Europe, qui sont majeurs, et sur les questions de défense en particulier, les gens qui ont quelque chose dans le couple franco-allemand, c'est nous pour l'instant. Ce qui compte aujourd'hui, c'est les relations avec le sud de la Méditerranée, la capacité à gérer ces trucs-là. Et ça, c'est pas les Allemands qui vont le faire. Si quelqu'un le fait en Europe, c'est plutôt nous qui sommes placés pour faire ça. Le Brexit a beaucoup affaibli la position allemande en Europe, parce que les conservateurs allemands ont beaucoup joué sur les conservateurs britanniques pour s'opposer à toute évolution d'une intégration plus sociale, plus fiscale, etc. etc. Sur la période récente, les Allemands ne peuvent plus jouer là-dessus aujourd'hui. Et puis ce qui se passe en Europe centrale et orientale est aussi très important. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un chancelier...
Il faut qu'on revienne aussi au débat sur les corps intermédiaires.
Ok, ok. Mais simplement,
tu peux être très prolixe.
Ce que je pense, c'est que sur cette question de pourquoi les Français sont pessimistes, c'est parce que d'une part, ils ont l'impression qu'on pèse plus, et d'autre part, qu'on peut plus changer l'Europe. Et je pense qu'ils se trompent, en tout cas sur ce dernier point, que c'est là-dessus que ça va jouer.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question, un commentaire sur la première partie ? Très bien. Alors, on va passer à la deuxième partie. Donc, sur le fait, sur la question qui est posée, de savoir si la remise en question des partis politiques, des élus politiques en général qu'on a vu dans les dernières élections, est-ce qu'elle touche également les syndicats et les associations? Si oui, de quelle manière, comment vous la ressentez? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour redynamiser justement cette envie de faire ensemble dans les syndicats et les associations? Thierry Cadard.
Bon, alors oui, sans surprise, oui, je crois que on serait bien irresponsable dans notre position d'organisation syndicale si on considérait que nous étions à l'abri finalement de ce qui vient de se passer dans le système politique aujourd'hui avec la remise en question brutale d'organisations installées depuis des années, avec quand même globalement un regard sur le politique qui reste, me semble-t-il, très, très négatif. Bon, on a parlé du taux de participation aux élections, c'est quand même un signe plutôt qui reste très, très inquiétant. Et d'une vision globalement quand même très consommatrice hein, de la politique. Moi, c'est quand même ça l'élément, moi, me semble-t-il, sur lequel on n'insiste peut-être pas assez. On est dans des organisations, les partis politiques, qui rassemblent très très peu de militants au sens réel du terme, qui sont du coup un peu hors sol, je pense, moi, je trouve, par rapport à la réalité de la société française. Et on sait très bien qu'on a une particularité française aussi dont on n'a pas de raison d'être fier, c'est quand même un taux de syndicalisation qui est quand même extrêmement faible. Alors il y a des chiffres différents qui circulent, mais enfin bon, allez, si on est à 10% de syndicalisation, c'est une vision sans doute un peu optimiste, et en sachant en plus que il y a un taux de syndicalisation bien plus important dans la fonction publique que dans les secteurs privés, que comme je le disais tout à l'heure, si on est dans le secteur privé, il y a présence dans les grandes entreprises et très très peu dans les autres secteurs. Donc ça doit interroger profondément le mouvement syndical, parce que le mouvement syndical il est tout à fait, à mon avis, soumis aux mêmes interrogations. D'ailleurs, si tous les sondages le montrent, hein, l'image des organisations syndicales est aujourd'hui à peine meilleure que celle des partis politiques. Et c'est vraiment vécu, je crois, que si vous prenez le citoyen moyen qui n'existe pas, mais si vous l'attrapez dans la rue, il va considérer que l'organisation syndicale, oui, bah, tout ça, c'est un peu la même chose, quoi. Hein, ce sont des gens qu'on voit à la télévision, ce sont des gens qui sont sans doute... qui traitent des dossiers importants, qui ont sans doute une bonne technicité, mais enfin, je n'en vois pas... Je ne sais pas qui il est. Quand j'en ai dans mon entreprise, d'ailleurs, ils sont très souvent occupés à aller dans des réunions ici ou là. Le phénomène d'institutionnalisation du syndicalisme, qu'en fait, on date plus ou moins du début des années 80, où se sont multipliées les instances dans lesquelles le syndicalisme a été sollicité pour apporter sa voix. C'est un phénomène qui existe. C'est-à-dire, les collègues de travail des camarades syndiqués souvent considèrent, bon, ce sont des gens sympathiques, mais enfin ils sont souvent pris ici ou là ou ailleurs, et voire on est obligé de faire le boulot à leur place, ce qui les rend pas obligatoirement populaires. Bon. Donc ces réalités là elles existent. On peut aussi le voir dans la pyramide des âges des adhérents et des militants des organisations syndicales. On peut le voir aussi de façon moindre, et là-dessus, on a quand même des évolutions plutôt positives sur la répartition femmes-hommes dans les organisations syndicales. Bon, on est à la CFDT sur un nombre d'adhérentes qui correspond à quelques pouillèmes près exactement à le pourcentage de salariés et eux dans la société. Donc on est à 48%, je crois, d'adhérentes récemment, sur un chiffre de 48,5. Enfin bon, voilà, on est vraiment très quasiment proche. Évidemment, je ne vais pas vous raconter non plus l'histoire. Plus vous montez dans l'appareil CFDT, c'est-à-dire, bon, vous avez après le pourcentage de militantes, est déjà un petit peu moins, les pourcentages de responsables, etc., au fur et à mesure, avec une exception quand même de la volonté de Laurent Berger depuis le dernier congrès, quand vous êtes à la commission exécutive, là, vous avez la parité complète. Mais bon, ben, c'est parce qu'il a fallu une volonté politique de le faire. Si on laisse faire, je dirais, le mécanisme traditionnel de sélection, eh bien, petit à petit, on... Bon, mais voilà, tous ces éléments-là... Et puis, alors, on peut parler aussi de la diversité. Hein. C'est un sujet dont je suis chargé de m'occuper. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à avancer aussi sur cette question-là. Combien d'organisations de syndiqués présents dans les quartiers, je veux dire, ça va évidemment avec le taux d'emploi dans ces endroits-là, etc. Mais enfin, il n'empêche que le fait syndical, ça paraît peut-être comme quelque chose de... Bon, de fumeux, donc voilà, il y a une vraie question de ce qu'est l'implantation et la réponse, enfin la façon dont nous voyons le problème à la CFDT, mais je veux dire ça, c'est que quand même il faut absolument rapprocher le fait syndical des salariés, c'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure la question de l'institutionnalisation, ça a profondément éloigné finalement l'activité syndicale des salariés. Et dans le système français, alors genre, on ramène sur les débats encore une fois qu'on avait au printemps dernier, mais qui mériterait à un moment donné qu'on réussisse à se les poser de façon un peu calme, il y a quand même cette question-là, qu'est-ce qu'on donne, comme aurait dit André Bergeron il y a quelques années, qu'est-ce qu'on donne comme grain à moudre finalement à l'activité syndicale en proximité des salariés. Et si on n'arrive pas à donner du grain à moudre en proximité, ça restera un phénomène lointain, institutionnel, et donc soumis aux mêmes critiques que toutes les institutions qu'on connaît dans notre pays aujourd'hui. Et avec, donc, je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, toutes les enquêtes le montrent, hein, on avait fait une grande enquête par Long Travail, on a eu 300 000 réponses, enfin, etc., mais les éléments qu'on a sont, me semble-t-il, assez solides, mais la première préoccupation des salariés, c'est je veux pouvoir dire mon mot sur l'organisation de mon travail. Et ça, c'est fondamentalement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur maîtriser son destin, c'est aussi maîtriser ce qui m'arrive le lundi matin quand j'embauche, quoi. Enfin, bon, voilà. Et ça, là-dessus, il faut absolument que dans les discussions qui s'ouvrent actuellement, etc., on arrive à gagner cette capacité des organisations syndicales à peser sur l'organisation du travail dans les entreprises.
Et est-ce qu'il y a des réflexions avec les autres confédérations, justement, sur des moyens de renouveler l'engagement dans les syndicats, comment vous rajeunissez les militants et les responsables, quelles solutions vous essayez de mettre en place?
Là-dessus, on a plusieurs dispositifs qu'on développe. Alors d'abord, il y a tout ce qu'on fait en termes de pour développer les adhésions et justement aller développer des adhésions là où aujourd'hui on n'est pas présent. Donc en particulier, on a des actions. Là, on a eu une action récemment auprès des Uber. Et là, on est sur. Alors, on n'est pas sur des salariés. Mais on considère, nous, dans le statut de la CFDT, mais je crois que c'est le cas des autres organisations syndicales, on a vocation à rassembler les travailleuses et les travailleurs. Donc là-dessus, on est véritablement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on doit laisser ces personnes qui sont dans des relations quand même avec, alors contractuelles, donc pas de salariat avec la société Uber, mais enfin, il n'empêche, quoi. On voit bien que quand c'est de la société Uber qui détermine le prix de la prestation, qui est en capacité de vous sortir de la plateforme ou pas, etc., on est quand même dans des rapports qui se rapprochent de celui de la...
du salarié
avec l'employé. Donc, du coup, on a mené une action avec eux, parce qu'ils étaient en conflit avec leur... Donc, vous voyez, bon, ce type de... Et on a décidé qu'on devait, au fur et à mesure, aller rencontrer, offrir des... réfléchir à qu'est-ce que le syndicalisme peut offrir à ce type de... Donc, déjà, ouvrir un peu le champ de ce côté-là. On a évidemment toutes les actions qu'on mène depuis des années pour essayer de développer le syndicalisme dans les TPE, j'en parlais tout à l'heure. Ça, c'est cet élément-là. On a aussi tout un tas de dispositifs qu'on a développés dans notre organisation pour repérer, entre guillemets, les militantes et les militants qu'on veut faire monter dans l'organisation. Parce qu'on s'est aperçu, et je veux dire, c'est pareil, tout à fait, donc, que si on ne fait rien de volontaire sur cette question-là, eh bien, au moment où un militant qui a des responsabilités quitte ses responsabilités pour une raison ou pour une autre, il y a un réflexe naturel d'aller chercher pour le remplacer, en gros, quelqu'un qui lui ressemble. Voilà. Donc, si vous laissez faire, eh bien, vous vous retrouvez avec le même, en plus jeune, Et pas toujours. Et donc, du coup, si, voilà, donc on a mis des dispositifs de cet ordre-là, donc ça fait partie des choses qu'on met en œuvre. Donc, ça sera une politique volontariste, voilà ce qu'on essaye de faire. Parce que, voilà.